Bien, nous allons maintenant entendre le commentaire de Laurent Vogel, qui est le responsable santé-sécurité à l'Institut syndical européen et qui a la lourde tâche de réagir en temps réel à ce qu'il vient d'entendre.
Effectivement, ce n'est pas facile. J'ai découvert les exposés en même temps que vous et je crois que ce sont trois exposés qui sont riches, mais qui en même temps, évidemment, partent dans des directions assez différentes. Donc, il est très difficile de concentrer tout cela en un seul commentaire. Je crois que la notion de risque, c'est l'intitulé, je dirais, de cette partie du colloque, est éminemment subjective. Et quand je dis subjective, ça n'a évidemment rien de péjoratif de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a le risque qui est causé par toute une série de choses qui ont été dites, mais il y a aussi une question, à mon avis, très importante, qui est le risque pour qui, et ce risque pour qui est différencié socialement. Et donc, je voudrais un peu revenir là-dessus. Je vais commencer par une anecdote. C'est quelque chose qui est arrivé il y a un peu plus d'un an. J'avais été invité à un séminaire. C'est très rare qu'ils invitent des syndicalistes à ce genre de séminaire, fait par des dirigeants d'entreprises s'occupant d'évaluation de risque dans des entreprises multinationales. Et donc, ils se posaient le problème, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on intervient dans des pays très différents, avec je dirais un contexte culturel, légal, etc., très différent. Et alors, un des exposés était présenté par le responsable de l'évaluation des risques d'une multinationale française dans le secteur de la distribution, qui était un ancien colonel de gendarmerie, et qui expliquait que sa difficulté, c'était finalement d'appliquer une méthodologie homogène par rapport aux risques, pluriel, qui était sous sa supervision. Et alors, c'était quoi principalement ces risques? C'était le risque accident du travail. Ça, je dirais que c'est assez classique, et donc il s'est forcé d'avoir des statistiques homogènes dans l'ensemble du groupe. C'était le risque du vol, tant en interne qu'en externe, c'est-à-dire par des membres du personnel ou par des clients. Et on avait ajouté récemment à son portefeuille le risque du terrorisme, parce que c'est un groupe qui investit dans des pays considérés comme plus dangereux que d'autres, etc. Et alors, dans le débat, je lui avais dit, tiens, et qu'est-ce que vous faites avec les troubles musculo-squelettiques? Alors là, la réponse était très significative. Il m'a dit, mais vous savez, le problème des troubles musculo-squelettiques, c'est que ce n'est un risque que dans certains pays. Alors je lui ai demandé de creuser cela, il m'a dit oui, parce que vous comprenez, il y a des pays où c'est considéré comme une maladie professionnelle, et là, effectivement, nous devons intervenir, mais c'est mieux que ce soit la direction locale alors qu'ils s'en occupent. Il y a des pays où, au contraire, ce n'est pas un risque pour nous, dans la mesure où ce n'est pas une maladie professionnelle, et donc, voilà, le problème ne se pose pas. Alors là, déjà, vous voyez comment derrière le mot risque, évidemment, se cachent des réalités très différentes. C'est vrai que pour l'entreprise en question, les troubles musculo-squelettiques n'étaient pas un risque dans un nombre élevé de pays. Surtout dans un secteur comme la distribution, on peut facilement changer le personnel. Enfin, il n'y a pas le problème de maintenir le personnel longtemps au travail ne se pose pas dans les mêmes termes que dans d'autres secteurs. Et alors, quand on voit l'histoire, je dirais, de la notion de risque dans le contexte de la santé au travail, on s'aperçoit que à différentes époques, à chaque étape, si on peut dire, le mot risque est utilisé pour une opération qui à la fois rend visible certaines choses et rend invisible d'autres, et ce n'est jamais neutre. Tout à l'heure, François Danielou nous a parlé de Céveso et donc de la notion d'accident majeur ou de risque majeur. En fait, cette notion de majeur elle-même est très discutable. Souvent, ce genre d'accident majeur provoque, en termes d'impact sur la santé des travailleurs, un impact global beaucoup moins important, beaucoup plus mineur que le fonctionnement normal des entreprises. Autrement dit, vous avez, si on applique ça par exemple à l'exemple des mineurs dans les mines, vous avez eu beaucoup plus de mineurs qui sont morts de la silicose, c'est-à-dire du résultat de la production normale de l'entreprise, de la manière dont le travail était organisé pour atteindre ses objectifs de production, que de catastrophes liées à des coups de grisou, etc. Mais la grande différence, c'est que le coup de grisou coûte aussi très cher du point de vue des capitalistes, c'est-à-dire que c'est un investissement important qui est perdu à l'occasion d'un coup de grisou ou d'une catastrophe majeure comme Céveso ou Bhopal, alors que la silicose n'a pas de coût, en tout cas un coût beaucoup plus contenu à travers le système d'assurance des risques professionnels, etc. Donc c'est un coût qui, en tout cas, est beaucoup mieux maîtrisé par l'entreprise. À la limite, ça fait partie des coûts salariaux et c'est intégré de cette manière. Et donc, je crois que l'évolution de l'utilisation, je dirais, de cette notion de risque en santé au travail est finalement très intéressante parce qu'il montre qu'il y a en permanence un conflit social autour de ce que c'est que le risque. Si on prend le risque professionnel au XIXe siècle, c'est clair, c'est une opération par laquelle on va isoler un très petit nombre d'événements et dire ça, c'est des risques professionnels. Et puis le reste de l'impact négatif de la santé, du travail sur la santé est écarté et ne fera l'objet ni de compensation ni de prévention. Lorsqu'on parle plus tard de risques, souvent on va avoir un discours porté par les compagnies d'assurance à partir de calculs actuariels et qui sont également, et qui vont être appliqués aussi évidemment au travail, et qui sont assez intéressants parce que par exemple aux États-Unis vers 1918-1920, un certain nombre de sociétés d'assurance refusent d'assurer des travailleurs qui travaillent avec de l'amiante, et parallèlement au niveau de l'ensemble à la fois enfin, de la société américaine et des entreprises, l'amiante n'est pas considérée comme un risque professionnel. Et donc là, c'est lié à des particularités du système d'assurance qui faisaient que les travailleurs étaient assurés à la fois contre, par rapport au risque professionnel au sens strict que nous connaissons en Europe et par rapport au risque santé dans un sens beaucoup plus global qui, en Europe, est en général pris en charge par d'autres acteurs. Et donc là, vous aviez cette contradiction entre l'amiante considéré comme n'étant pas un risque du travail, mais quand même posant un problème par rapport aux compagnies d'assurance qui se rendaient bien compte qu'elles allaient faire face à des frais beaucoup plus importants quand il s'agissait de travailleurs exposés à l'amiante que quand il s'agissait des autres travailleurs en général. Et donc, je crois que la question qui pour moi est très importante, c'est chaque fois de se dire, mais finalement, c'est un risque pour qui ? Et quand on passe alors à la prévention, et ce point a été abordé évidemment par François Danielou, la question du risque pour qui devient une question fondamentale pour assurer une prévention efficace. Autrement dit, on ne peut assurer une prévention efficace que si l'on fait appel à l'expérience du qui est la victime possible ou réelle du risque en question. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important dans les différentes, je dirais, constructions qu'on a pu faire autour de la notion de risque. On voit que l'attitude par rapport au « pour qui » a été très variable, depuis une occultation complète dans un certain nombre de modèles, jusqu'à une prise en considération plus ou moins importante dans d'autres modèles. Voilà, ça c'est vraiment une introduction, un chapeau très général. Je suis sûr qu'il y a aussi des questions spécifiques que l'on va vouloir poser à chacun des exposants.